Bonsoir. Province du Nord Kivu, la société civile du territoire de Beni a rapporté ce jeudi 9 mai le meurtre d'au moins 8 personnes lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF dans la localité de Mandouli, territoire de Beni. Cette structure citoyenne signale également la disparition de plusieurs autres personnes lors de cette attaque ainsi que des maisons incendiées. De son côté, l'armée dit poursuivre les rebelles afin de tenter de récupérer les otages. Cette nouvelle attaque intervient 3 jours après la rencontre entre les chefs d'état-major général des FRDC, le lieutenant général Christian Tshiwewe et son homologue de l'armée ougandaise. Ces derniers ont dressé lundi 6 mai un bilan positif de l'opération Shuja contre les rebelles EDF à Beni au Nord Kivu et une partie des Ituri. Quelle est-ce que faire de cette énième attaque des EDF contre la population civile? Nous en parlons ce soir avec le professeur Augustin Moïssi, politologue et membre de l'AVRP, parti membre de l'Union Sacrée. Professeur Moïssi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Richard Kirimba, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est premier vice-président de la société civile du territoire de Beni, au Nord Kivu. Et aussi avec nous dans ce débat, Maître Rigen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Maître Miviri, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Beni au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 92.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
8 personnes ont été tuées, d'autres disparues et un centre de santé saccagé lors d'une nouvelle attaque des rebelles EDF dans la localité de Matumbi dans le secteur de Beni Mbaou. Territoire de Beni, nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, l'armée dit pour chasser ces rebelles, pour tenter de sauver les otages. La société civile affirme que ces rebelles EDF seraient venus de la localité de Passidi, du territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Sadiki Aboubakar, depuis Beni, nous en parle.
Sadiki Aboubakar, bonsoir.
Bonsoir, Dona.
Au sujet de ces nouvelles attaques des ADF, quelle description pouvez-vous nous en faire?
De rebelles des ADF ont attaqué simultanément les localités de Passidi dans le territoire de Mambasa en Ituri et celle de Mantumbi dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Au total, la société civile du territoire de Beni dresse un bilan provisoire des 9 morts, mais aussi des personnes portées disparues. La plupart des victimes ont été sauvagement tuées sur l'île des malades au centre de santé de Mantumbi. Par ailleurs, ces mêmes rebelles des ADF ont tenu une embuscade en pleine journée de ce jeudi à Kabrike sur la route nationale numéro 4. Des sources locales rapportent la mort d'une femme passagère et 2 motos taxis incendiées.
Que fait alors l'armée pour répondre à ce besoin sécuritaire dans la région?
L'armée est présente, Donna. Elle intervient en temps opportun parce que pour ce qui concerne par exemple l'attaque de Mantumbi, la société civile signale l'intervention de l'armée bien que tardive. Il faut toutefois dire qu'il existe 2 armées dans la région, les FARDC et l'armée ougandaise UPDF, qui opèrent conjointement dans la traque des ADF. Et depuis que ces rebelles ont multiplié des attaques dans la région de Mangina et le quartier Sayo de la ville de Beni, les forces conjointes semblent concentrer leurs efforts de ces côtés-là, ce qui crée une sorte de vide sécuritaire dans plusieurs autres parties du territoire de Beni où l'on signale toujours la présence de ces rebelles qui tentent maintenant de traverser la route nationale numéro 4 de l'ouest vers la partie est.
Ça dit que les chefs d'état-major de l'armée de la RDC, tout comme de l'armée ougandaise, ont évalué lundi leur opération conjointe. Qu'est-ce que cela a comme impact dans cette opération?
Donna, plusieurs acteurs locaux pensent que jusque-là, il n'y a pas encore de différence remarquable dans les opérations sur le terrain. Comme vous le savez, on a passé plusieurs mois sans que l'on entende parler des opérations conjointes dans la zone, alors que le besoin était toujours ressenti et même la société civile ne cessait d'alerter sur le mouvement des ADF et demander l'intervention des opérations conjointes pour traquer ces rebelles et les empêcher d'élargir leur champ d'intervention. Nous espérons donc que des nouvelles stratégies mises en place par les deux armées vont permettre de relever le défi, Donna.
Merci Sadiq Aboubakar et bonne soirée.
Merci à vous, Donna.
Professeur Augustin Mouissi, politologue et membre de l'AVRP, parti, un membre de l'Union Sacrée, 8 personnes tuées lors d'une nouvelle attaque des rebelles EDF dans la localité de Mandouli, malgré les opérations conjointes FRDC et UPDF dans cette partie de la République. Professeur, comment on peut comprendre ça?
Oui, bien, merci madame pour l'invitation. Je crois que je vais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont été retrouvées, puisque 9 morts et d'autres personnes portées disparues, c'est déjà trop. Alors, comment expliquer cela? C'est qu'il faut d'abord dire que le phénomène ADES, c'est un vieux phénomène. Et il s'agit ici d'un mouvement terroriste qui s'est enraciné dans la région depuis de longues années. Et que malgré les opérations conjointes FRDC, UPDF, ces ADF continuent à semer la mort, essayent de défier effectivement ces différentes opérations qui sont menées par les deux armées qui ont mutualisé les forces. Et cela fait qu'effectivement on arrive à cette situation de tuerie malgré les efforts qui sont fournis par le désarmé. Et il faut dire aussi que une autre raison peut être liée au mode opératoire des ADF, qui sont en fait, qui privilégient des tactiques de la guérilla, et donc qui se déplacent à petits groupes dans des zones supposées peut-être sécurisées, et qui bénéficient en fait d'une parfaite connaissance de la zone, comme je l'ai dit, ils ont fait longtemps là-bas, et ça fait qu'ils sont capables justement d'aller commettre des crimes dans des espaces supposés sécurisés, parce qu'ils sont en mesure justement de se mouvoir facilement dans la région, tout en maîtrisant. Et donc voilà un peu quelques raisons qui peuvent faire en sorte que les tueries continuent malgré justement les efforts qui sont consentis par les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi l'UPDF.
La population.
La ressource de la RDC pour essayer de contrer ces mouvements.
La population de Beni est inquiète, s'inquiète hein, de l'intensification hein, des incursions des EDF, alors que selon la société civile du territoire de Beni, elle pense avoir déjà identifié et alerté sur les 3 villages qui sont supposés être des bastions de ces rebelles. Mais elle est étonnée de voir que les forces de sécurité, les services de renseignement n'attaquent pas ces villages supposés être ceux de rebelles EDF.
Bon, il faut dire que les inquiétudes de la population, justement, sont fondées. Donc, les inquiétudes de la société civile, disons, qui reflètent les inquiétudes de toute la population, sont vraiment fondées. Étant donné que cette population a souffert longtemps, justement, des différents crimes qui sont commis par ce mouvement terroriste, en fait. Et là, en ce qui concerne, justement, les attaques ou cette dénonciation, je suis tenté de dire effectivement qu'il serait souhaitable que l'armée, notre armée, essaie de capitaliser les contributions ou les alertes de la société civile pour l'amener à être plus efficace. Je dois rappeler que depuis qu'on a commencé à évaluer justement les opérations conjointes Soudja, donc menée par l'armée congolaise et l'armée ougandaise, qu'on n'a pas suffisamment justement la société civile dans le cadre justement d'une coopération, d'une évaluation civilo-militaire aussi. À mon avis, si on devait prendre en compte aussi cette dimension, cela peut aussi, d'une certaine manière, rendre plus efficaces les opérations contre ces mouvements terroristes, puisque j'estime effectivement que la société civile pourrait aussi posséder un certain nombre d'informations, des renseignements nécessaires, qui pourrait justement éclairer la religion de ceux-là qui ont pour mission justement de combattre suffisamment cette rébellion. J'ai l'impression que cet aspect n'a pas suffisamment été pris en compte et il importe qu'on essaie de le faire pour davantage capitaliser les chances de ces opérations pour visant justement à pacifier cette région qui fait face justement à des attaques terroriste, car comme vous le savez, ce mouvement qui est terroriste a certainement beaucoup de ramifications aussi. Et un autre élément que je peux ajouter, ce qu'on peut mettre à contribution, c'est que la dimension liée à la justice, en fait. Il y a eu beaucoup d'arrestations qui ont été faites dans la région, des personnes présumées avoir collaboré d'une manière ou d'une autre avec ce mouvement terroriste. À mon avis, si on doit aussi, lorsqu'on va les traduire en justice, ces personnes arrêtées peuvent aussi fournir un certain nombre d'informations susceptibles aussi de faciliter la tâche, de fournir justement, de renseigner davantage ceux-là qui mènent cette opération conjointe et arriver, n'est-ce pas, à démanteler progressivement tous les soutiens peut-être dont pourrait bénéficier ce mouvement terroriste QTI, puisque il est clair que certainement ces personnes pourraient détenir peut-être une série d'informations. Mais c'est à quoi on assiste, c'est que souvent on arrête des personnes et après le volet, les procès ne suivent pas. Et donc à mon avis c'est aussi un gap à pouvoir combler pour rechercher davantage la sécurité, construire la paix dans cette zone, dans cet espace béni et une partie de l'Ituri où opèrent les ADF.
Professeur Mouessi, le chef d'état-major général de FARDC et son homologue de l'armée ougandaise ont dressé lundi un bilan positif de l'opération Shujaa contre les rebelles EDF à Beni au Nord Kivu et une partie de l'Ituri. Je rappelle que cette opération a été lancée en novembre 2021. Vous qui connaissez la région, peut-on dire que il y a eu un changement depuis le lancement de cette opération, que le bilan est positif, comme l'ont dit les chefs d'état-major des deux armées congolaises et ougandaises.
Bon, en fait, au niveau institutionnel, il faut comprendre cette façon de communiquer, c'est qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis. Je me rappelle, lorsque cette opération avait été lancé, il y a eu des attaques contre les camps qui étaient les bastions vraiment des ADF et c'était à la grande satisfaction d'une grande partie de la population. Mais qu'est-ce qu'on a constaté, c'est qu'après ces attaques qui étaient menées avec des armes très lourdes et qui opéraient à distance, on a eu comme le procès qu'il y a eu dispersion des rebelles qui se sont justement partagés ou qui ont vagabondé en petits groupes dans certaines zones. Et chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ces petits groupes, ils n'hésitaient pas à massacrer donc la population. Et donc je suis tenté de dire qu'à part justement ces opérations de début qui avaient suscité de l'espoir et qui avait réussi à déloger certains, disons, les rebelles ADF de certains de leurs bastions, ces opérations devaient être accompagnées par d'autres opérations des forces terrestres en vue de pouvoir poursuivre l'ennemi dans, n'est-ce pas, tout ce rapprochement.
Merci.
Mais ce qu'on a constaté, c'est que, à part les efforts que le gouvernement essaie de faire, le FARDC essaie de faire, il arrive que, effectivement, les ADF massacrent, ce qui prouve que de ces côtés-là, il y a encore des efforts à fournir pour pouvoir, justement, démanteler, affaiblir complètement ces ADF. Mais je persiste, c'est que on ne peut le faire que si on associe sérieusement, n'est-ce pas, les populations locales, la société civile, qui peuvent disposer aussi des renseignements à fournir, mais aussi qui peuvent, au plus hospitalisant les alertes qui sont régulièrement à donner. Mais aussi, il faut quand même reconnaître que depuis que la guerre du M23 avait commencé, c'était aussi un nouveau front qui avait été ouvert. Et donc, comprenez qu'à ce moment-là, et depuis ce front-là, les FARDC ont dit faut en même temps face à la rébellion du M23, mais aussi
merci, professeur.
Aux ADF qui restent toujours actifs. Et donc,
on va vous redonner la parole. La réalisation me signale que Richard Kérimbi est en ligne. Vous m'entendez? Richard Kérimbi.
Oui, madame, c'est Richard Kérimba.
Voilà, Kérimba, voilà. Merci de m'avoir corrigé. Vous êtes premier vice-président de la société civile du territoire de Béni, au nord, nous sommes dans la province du Nord Kivu. La société civile a rapporté ce jeudi 9 mai le meurtre d'au moins 8 personnes lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles EDF dans la localité de Mandouli, territoire des Béni. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette nouvelle attaque de ces rebelles EDF alors qu'il y a des opérations en cours dans cette partie de la République pour neutraliser justement ces rebelles?
Oui, madame. En fait, la présence des ADF est signalée actuellement dans cette partie-là où s'est passé des tueries. Ça signifie que on peut prendre 30 km de la ville de Beni en allant vers l'ouest, donc vers Mambasa, et ça va nous amener aux environs de la cité de Mangina. Et si nous prenons 30 autres kilomètres de la ville de Beni en allant au nord, ça va nous amener vers la commune de Oicha. Et dépasser même 30 autres kilomètres, ça signifie 60 kilomètres de la ville de Beni, ça va nous amener à Engeti. Toute cette partie ouest de la route nationale numéro 4 est à proie à l'insécurité actuellement. L'activisme des ADF, ils ont même érigé des bastions là-bas. Et ça fait donc une partie de la ville de Beni, et cette bonne partie du territoire de Beni qui est à tout le temps attaqué par les ADF. Donc, l'attaque de la nuit dernière n'était pas une surprise par rapport aux alertes de la population. Il faut aussi signaler que cette partie partage directement les limites avec la province de l'Ituri, notamment le territoire de Mambasa. Et chaque fois que les ADF commettent des exactions ici en territoire de Beni, dans cette partie que je venais de décrire, donc Sayo, Mavis, Indite, les alentours de Koïta, y compris Mandumbi, parce que Mandumbi c'est juste derrière Mbao, ils peuvent commettre des exactions ici au territoire de Beni et ils rentrent légèrement dans les brousses du territoire de Mambasa, donc dans la partie Ituri, là où la présence armée n'est pas aussi comme telle, mais même dans la partie du Nord Kivu, la partie là que je venais de décrire, dans les alertes, nous estimons qu'elles ne sont pas bien tenues à compte par le service de sécurité. Parce que récemment, la société civile et les populations locales avaient fait une cartographie même des positions ADF qui se seraient érigées le long de toute cette partie décrite si haut, mais on n'a pas senti une sorte d'action anticipative du côté des services de sécurité. Alors, donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette attaque. Pour moi, cette dernière attaque était prévisible, vu toutes les alertes tous les débats tenus par la population il y a peu.
Vous déplorez donc le fait que vos alertes ne sont pas prises en compte par les services de sécurité. Est-ce que la société civile est entrée en contact avec ces services de sécurité pour essayer de leur faire voir qu'il y aurait une attaque peut-être qui est en train de se préparer? C'était quoi la réponse que vous avez reçue? Et puis ça se passe comment lorsque vous parlez des alertes de la population? Ça se passe comment généralement?
Oui, ça signifie que l'attaque d'aujourd'hui là, c'est pas du nouveau, c'est la suite d'une série d'attaques. Il y a peu, n'est-ce pas, vous avez appris que il y a eu attaque en Guité, à Mavivi, là où tout le monde a dit que un ancien député même avait été arrêté parce qu'il est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça c'est il y a moins de 10 jours que ça s'est passé. Mais avant ça, la ville de Beni a été la cible de ces attaques dans la partie Sayo, donc c'est non loin de l'aéroport de Mavivi. Mais une autre commune proche de la ville de Beni, c'est Mangina, où à plus de 3 fois, il y a des civils qui sont morts, même à pleine journée, aux environs de 10 heures. Notre centre de santé à Mangina a été attaqué, c'est comme ça. Donc on ne peut pas soustraire l'attaque récente ici de Mantumbi à toute cette série d'attaques menées dans la même région de Beni. Alors, comment ça se passe avec les autorités, comme vous dites? Il y a toujours des rencontres avec la population. Des fois, nous sommes dans l'administration militaire, les athées militaires sont en contact permanent avec la population et la population donne ses informations. Il arrive que nous sommes nous-mêmes rendus à Mavivi, par exemple, pour discuter avec les militaires qui sont supposés être sur la ligne de front, et lorsque vous donnez même des détails, vous sentez qu'ils ont aussi ces informations, ils ont déjà reçu ces informations par les populations civiles. Mais c'est une zone où actuellement on vous dit que même les ADF montent des drones, ils ont déjà des drones qu'il faut monter pour avoir des informations, et que les services des renseignements, les services de sécurité sont au courant de toute cette partie. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les alertes sont remontées soit directement dans des rencontres avec les autorités ou les services concernés, soit à travers des messages ou des appels téléphoniques. Lorsque la société civile est en contact avec des rescapés, quelqu'un qui vient de son champ et qui a vu, évidemment, des mouvements qui indiquent qu'il y a des personnes suspectes dans une vallée comme ça, il vient, il donne l'information. Si lui-même ne donne pas ça à l'armée, la société civile ou d'autres personnalités comme des autorités coutumières remontent l'information. Et des fois, les réactions qu'on a des autorités, c'est message bien reçu, suivant ensemble, on est au courant, on est en train de suivre, et on ne sait pas beaucoup insister parce qu'on va vous dire qu'il s'agit d'une question sécuritaire. Et que si vous en parlez beaucoup, vous serez en train de former au même moment l'ennemi. Donc voilà comment ça se passe. Et des fois, lorsque l'autorité vous a dit message bien copié ou OK à suivre, suivons ensemble, vous ne savez plus décortiquer le message derrière OK ou derrière suivons ensemble.
Merci. Alors, Maître Rigen Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Votre lecture de ce qui se passe dans le territoire de Beni avec ces attaques à répétition des rebelles EDF malgré des opérations en cours dans cette partie de la République. Maître Rigen Miviri, est-ce que vous êtes en ligne? Je pense qu'on a perdu Maître Rigen Miviri.
Est-ce que là, vous me suivez?
Maître Miviri, oui, on vous suit. Allez-y.
Ah, super, merci. Oui, j'étais en train de dire, en fait, que
cette situation, elle était prévisible. On l'a dit encore ici, c'est que la société civile avait alerté sur le mode opératoire des ADF, notamment le fait qu'ils se dirigeaient beaucoup plus vers l'ouest. Et là, ça serait encore plus compliqué de les combattre, étant donné que c'est des zones plus forestières, et c'est plus loin de la frontière ougandaise, et comme on l'a dit encore, les UPDF étaient plutôt intéressés à sécuriser leurs propres frontières. Donc, le plus grand défi de ces opérations, c'est que c'était plus des opérations de protection des frontières et pas des opérations de police. Pourtant, quand il y a des massacres contre des populations, on a beaucoup plus besoin des opérations de police pour sécuriser les populations qui sont la cible principale de ces massacres des ADF. Donc ça, c'était quelque chose qui a manqué pendant très longtemps et malheureusement, malgré les analyses et malgré les alertes, cela n'a pas été changé. Aujourd'hui, comme on l'expliquait encore ici, il y a de plus en plus de massacres à Beni avec des ADF qui vont se cacher du côté de Mambasa où c'est encore plus difficile de le combattre parce que c'est plus loin de la frontière ougandaise, mais aussi c'est des zones à difficile accès pour les unités de l'armée. Donc, il y a urgence encore une fois de rajouter la police, de faire en sorte que ça ne soit pas seulement une opération militaire pour rétablir l'intégrité territoriale, mais que ça soit.
Maître Miviri.
Des civils.
Alors, on a suivi les deux chefs d'état-major de l'armée congolaise et ougandaise s'est félicité de l'opération Shuja contre les rebelles ADF à Beni au Nord Kivu et dans l'Ituri, une partie des l'Ituri, je veux dire, en tant qu'analyste expert, cherchera et Bouteli sur les questions sécuritaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette opération Shuja? Pensez-vous que cela a quand même a réussi à démanteler, à diminuer la présence des ADF dans cette partie de la République.
Je ne pense pas en tout cas que ça a diminué la menace. En tout cas, si on considère la menace contre les civils, elle n'a pas diminué. Mais plutôt, ça a diminué l'espace sur lequel ils pouvaient se mouvoir. Donc, ils ne peuvent pas se mouvoir librement autour de la frontière ougandaise, et ça, c'est dans l'intérêt de l'Ouganda. Donc, on voit clairement que l'Ouganda avait intérêt à sécuriser sa frontière. Et si c'était ça l'objectif, alors là, on peut dire que l'opération a réussi. Mais ça, ce n'est que dans l'intérêt de l'Ouganda. Mais qu'en est-il des populations congolaises? Est-ce que ces opérations ont réussi à prévenir des attaques contre les civils? On dira que non. Donc, c'est pour ça que je pense que le bilan n'est pas si fameux que ça.
Vous allez rester en ligne, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle justement depuis la ville de Beni, au nord Kivu.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au nord Kivu. Les massacres à répétition observés ces derniers temps au nord Kivu sont la conséquence directe de l'échec puissant de l'état de siège instauré dans des provinces et malgré plusieurs opérations lancées jusque-là par l'armée. Je pense que si le gouvernement congolais n'y prend pas garde, s'il ne s'y implique pas de manière sérieuse et comme il se doit, les risques demeurent encore graves que dans 2 ou 3 ans, une bonne quantité de population puisse perdre leur vie. Nous estimons que l'état de siège a montré clairement ses limites en Ituri et au Nord Kivu. Force serait au gouvernement congolais d'arrêter des stratégies beaucoup plus efficaces afin de mettre un terme à cet état de choses macabre et infernal dans cette partie du territoire national.
Maître Miviri, brièvement.
Absolument, je pense qu'il est important que d'autres stratégies soient mises en œuvre. Il est important que le gouvernement puisse s'en saisir, et surtout la partie congolaise, parce que on parle des opérations conjointes, mais on a comme l'impression qu'il y a beaucoup plus une démarche ougandaise qu'une démarche congolaise. Donc, il est important que le Congo puisse considérer que ça, c'est la plus grande crise et qu'il puisse y mettre de moyens et surtout des stratégies adaptées, notamment en insistant sur la protection des civils. Parce que c'est ça l'essentiel. Il s'agit de massacres et pour mettre fin à ces massacres, on peut bien repousser les rebelles plus loin, mais ça ne va pas les empêcher de passer par des villages et tuer des civils entre-temps.
Professeur Augustin Moessi, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo.
Albert Kolembela, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Je compatis avec nos frères et sœurs qu'on a arraché le sourire et la joie dans le cœur. La situation de Nord Kivu ne cesse d'effrayer la chronique. Il ne se passe plus un jour sans qu'on puisse enregistrer les cas de morts, les cas de déplacés sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Au stade actuel, les accords n'arrivent plus à restaurer la paix dans cette partie du pays. La volonté politique et la détermination des Congolais peuvent favoriser le retour de la paix dans cette partie du pays. Par cette occasion, je rappelle au chef de l'État son discours de campagne qui a promis à ses peuples que la restauration de la paix dans la partie Est serait son champ de bataille. À mon avis, je propose que l'état-major quitte Kinshasa pour s'installer à Goma afin de bien s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays.
Professeur Augustin Moessi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être une solution?
Oui, en fait, je partage l'interpellation ou la demande que fait notre compatriote Albert vis-à-vis du gouvernement, parce que quel que soit l'accord, disons, qui a permis les opérations conjointes Soudja, il reste vrai que la responsabilité pour ramener la paix à l'Est, la RDC, notamment dans l'espace béni, revient prioritairement au gouvernement congolais, et qui doit pouvoir fournir un peu plus d'efforts. C'est vrai, il y a des efforts qui sont fournis, mais il aurait été souhaitable qu'après cette dernière évaluation, que justement de nouvelles stratégies soient pensées en vue de pouvoir faire face aux défis sécuritaires, à la menace sécuritaire contre les populations civiles. Et c'est à cela que je partage l'interpellation justement de notre compatriote et c'est de son droit fait parce qu'il est dit à la population de rappeler aux gouvernants ce qu'il doit pouvoir faire, c'est de la responsabilité citoyenne de tout et chacun. Mais à part justement, puisque quel que soit justement la mission d'intervention ou bien une force d'intervention qui vient appuyer la RDC, il est clair que cette force ne va pas tout faire parce que, comme nous l'avons dit, les ADF se promènent en petits groupes sur les territoires qu'ils connaissent parfaitement. Et là, ça implique justement, cela implique la intervention de forces de sécurité, les renseignements d'abord pour pouvoir capitaliser les alertes qui viendraient de la population, mais aussi une dynamique locale aussi de la population pour essayer de s'organiser pour barrer la route justement à ces ADF, dénoncer auprès de l'armée en temps réel et pousser le gouvernement à faire davantage, à faire plus qu'il ne fait pour amener en fait la sécurité dans cette région.
Donc, mais la population dénonce, professeur. La population dénonce. Vous avez suivi la société civile. La population dénonce, mais les interventions arrivent très souvent en retard. Parfois même, les alertes sont ignorées.
Oui, si effectivement il arrive que les interventions soient ne soient pas proportionnelles ou ne soient pas rapides, cela lève justement de failles justement de forces de notre pays. Et il va soit que le gouvernement effectivement essaye de corriger, et avec comme l'intervenant fait allusion aux promesses du chef de l'État, mais aussi tout le monde sait qu'on attend un nouveau gouvernement, et on peut espérer que le nouveau ministre de la Défense va essayer de faire de tout son mieux pour essayer de corriger certaines failles. Et il est tout à fait normal que lorsque l'armée s'est bien comportée, que la population effectivement salue les efforts de l'armée, mais aussi il est tout à fait normal que lorsqu'il y a des failles, que la population essaye de remonter ces failles pour amener notre armée, notre gouvernement à faire mieux pour sécuriser en fait la population. C'est l'équilibre en tout cas en démocratie en fait.
Merci. Alors Richard Kirim, on va prendre aussi pour vous ce dernier auditeur qui nous appelle depuis le Kasaï central.
C'est Omer et Moulambola depuis la province du Kasaï central. Nous compatissons avec la famille ou alors les familles éprouvées dans cette partie du pays. À mon avis, tout ceci est la répondée du manque de volonté politique qui est presque absente dans la gestion des conflits dans ces coins du pays. Si l'on peut regarder dans les rétroviseurs, il n'y a pas longtemps qu'hier que le président Tshisekedi avait promis qu'il ferait de la paix dans la partie est du Congo une priorité. Mais là, on constate que son discours n'a rien de si différent avec ce que nous avons entendu autrefois. En termes de remède, le président Tshisekedi n'a qu'à aller instaurer son état-major à l'Est pour s'imprégner lui-même de la situation plutôt que d'être un gestionnaire chambré confiant simplement aux déclarations parfaites qu'il trouve que attirer richesse, confiance aux autorités qu'il a lui-même donné là-bas en termes de gouverneur militaire.
David Wedi, depuis Kinshasa, la guerre de l'Est dans la partie Est est une affaire de tous. La population nord doit travailler en synergie avec le gouvernement pour dénicher les rebelles, car ces derniers ne viennent pas du ciel, mais vivent avec les civils. Richard, votre réaction?
Oui, en fait, c'est aussi ça le problème. Donc, des fois, nous menons des analyses, des fois nous nous trompons dans les analyses par rapport au contexte réel du terrain. Vous savez que lorsqu'on fait mal les diagnostics, même au niveau de l'État, on peut aussi mal chercher des réponses. On a aussi des problèmes de renseignement mêlés à tout ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que lorsque l'armée fait la guerre, l'armée tombe sur des rescapés, l'armée tombe sur des capturés, il y a des capturés. Donc, parmi les ADF capturés, il y a ceux qui sont entre les mains des services de sécurité, qui donnent des informations. Parmi les civils, il y a ceux qui ont été en captivité pendant 12 mois, pendant 4 mois, des personnes qui ont des informations sûres par rapport au déroulement de la guerre du côté ADF. Mais on se demande souvent si ces informations sont capitalisées réellement. La population, tout le monde a toujours dit que la population doit s'impliquer, la sécurité c'est l'affaire de tous. Mais madame, je peux vous rassurer que la population du territoire de Beni a déjà donné le meilleur de lui-même, le meilleur d'elle-même, au point où résister, rester dans la zone où on est en train de mourir, même moi qui vous parle maintenant, je ne sais pas si demain va m'arriver intact. Le fait de résister et rester dans cette zone, c'est déjà une contribution. Le fait de donner des informations en rapport avec des positions sûres, la semaine passée, par exemple, la population a bien clarifié que les bastions ADF se trouveraient à Moutoubé, à Moutaba, à Matukaka. Tous ces villages, c'est près de l'endroit où s'est passé l'événement aujourd'hui. Maintenant, si nous revenons, par exemple, à la question des UPDF, comme d'autres étaient en train d'en parler, il faut dire que ces opérations conjointes, les opérations Soudja, ont connu quand même quelques réalisations qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut apprécier dans certaines contrées de la zone à guerre. Mais on se pose la question si, à notre niveau, donc au niveau de la RDC, si on est en train de capitaliser ou si on est en train de tirer certaines leçons. Parce que lorsque à Rwenzori, à Watalinga, vous y allez aujourd'hui, et vous parlez des opérations Soudia, on va vous dire que n'eût été ces opérations, en tout cas, les populations ne seraient pas là où elles sont retournées aujourd'hui. Là, c'est par rapport à l'appréciation. Et qu'est-ce qu'on apprécie dans les opérations Soudia? Parce qu'il n'y a pas que l'armée ougandaise dans les opérations Soudia. C'est l'armée ougandaise, mais l'armée congolaise. Ce sont les opérations conjointes, comme on a parlé. Et ce qu'on apprécie dans cette partie-là, donc les beaux côtés des opérations conjointes, c'est l'armée ougandaise s'est organisée des patrouilles diurnes et nocturnes. Donc on n'est pas intact dans des positions militaires. Vous allez les rencontrer dans des pistes, dans des routes, mais aussi toutes les ruelles qui vont vers les champs, qui sont en train de faire des patrouilles la journée comme la nuit, et cela essaie de coincer l'ennemi. Mmh. La guerre dont on parle ici, c'est pas que les rebelles sont seulement mêlés dans les entités ou dans la population, comme on le dit. Mais vous avez des informations selon lesquelles le recrutement se fait dans la région, l'Afrique, même en dehors peut-être de l'Afrique, que plusieurs pays sont impliqués dans le recrutement, peut-être sciemment ou inconsciemment, on ne le sait pas, mais au moins c'est au-delà même de l'Ouganda, à Tanzanie et ailleurs. Donc nous estimons que on ne devrait pas laisser le gros de la confiance de la population à l'armée ougandaise dans ces opérations. C'est vrai, la tendance est de penser que on serait en train de protéger la frontière congolo-ougandaise au bénéfice de l'Ouganda. Mais alors, du côté congolais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans la langue locale ici, on dit que lorsque vous avez quelqu'un qui vient à votre secours, vous devez fournir beaucoup plus d'efforts à ce moment-là. Mais c'est pas ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est comme si l'armée ougandaise, lorsqu'elle n'est pas encore déployée pour renforcer les soldats dans une zone comme ça, alors la zone là où il n'y a pas encore des opérations conjointes est sacrifiée. Et c'est ainsi que l'ADF est en train de quitter progressivement la frontière congolo-ougandaise pour entrer à l'intérieur du pays en allant vers Mambasa, comme quelqu'un d'autre l'a dit dans ce débat. Alors, donc, nous estimons que on ne continuera pas à sous-traiter les services militaires de la RDC, mais on devrait beaucoup plus se concentrer sur la capacitation de l'armée. Au niveau local, je peux vous être franc, on ne pouvait pas soutenir les opérations Soudia au début, parce que nous avons l'histoire que l'armée ougandaise est sale. L'armée ougandaise a des mains sales dans le passé de notre territoire. Il n'y a pas longtemps, au moment où, par exemple, le général Bahouma combattait les ADF, les blessés ADF étaient soignés en Ouganda. C'était déjà un signe que l'Ouganda servait à quelque sorte de base arrière aux ADF. Mais au moment où le pays a décidé de mettre ses opérations ensemble avec l'Ouganda, bon, on a essayé de voir les choses autrement et de penser que peut-être ceux qui servaient de base arrière à l'ennemi se sont joints à la cause du pays et qu'ensemble, notre armée et leur armée, ils vont trouver des solutions. Mais nous estimons que les efforts fournis par notre armée ne sont pas encore proportionnels à la menace.
Merci.
Parce que la menace en question, les ADF, comme ils déambulent à petits groupes, ils méritent d'être coincés à tant que tel. Toutes les informations données par la population, toutes les informations soutirées de capturer des ADF devraient être mises à contribution pour tenter d'indiquer cette nébuleuse ADF. Donc nous estimons que les efforts vraiment ne sont pas encore proportionnels. Et c'est ça qui fait à ce que les populations se meurent chaque jour, et chaque jour qui passe. Et des fois, ça blesse lorsque le pays en parle moins. Nous remercions à cette occasion, en tant que société civile, en tant qu'acteur de la société civile, Radio Capi, de s'être intéressé, je crois, plus de deux fois le mois ici, par rapport à les mois passés et ce mois ici, par rapport à cette question. Mais on a comme impression que le pays, les préoccupations du pays, par rapport à l'insécurité à l'Est, sont beaucoup plus ailleurs que sur cette question des ADF.
Merci. Rigen Mibiri, on va conclure. Alors, les efforts de l'armée ne sont pas proportionnels à la menace, selon la société civile du territoire de Béni. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui devrait être amélioré? Très brièvement, s'il vous plaît.
Oui, encore une fois, comme je le disais, ce qui doit être amélioré, c'est la composante protection des civils qui à mon avis, reste quand même la partie boiteuse de toutes ces opérations. Donc, beaucoup plus d'opérations de police et de sécurisation des populations. Et ça, ça passe par la question juste de la priorisation. Il faut tout simplement que la crise ADF soit une priorité. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres crises. Bien sûr que la RDC est en proie à beaucoup d'autres difficultés. Mais je pense que la crise ADF devrait préoccuper au plus haut point les autorités congolaises et les moyens, mais aussi la connaissance nécessaire de ce groupe et de cette dynamique devrait être la priorité. Parce que si on compare avec, par exemple, les autres groupes armés, c'est le groupe le moins étudié, en fait. Et on ne sait pas exactement s'il y a une stratégie adaptée à la nature ambiguë de ce groupe. Donc, on doit faire encore beaucoup plus en termes de recherches sur ce groupe, mais aussi en termes d'action qui soit adaptée à la nature même de ce groupe, mais aussi au mode opératoire de ce groupe, en insistant sur la protection des civils. Parce que
merci.
Depuis 2014, ce sont les morts civiles, c'est plus de 10 ans des morts des civils, et ça doit s'arrêter, et c'est le gouvernement qui en a la responsabilité.
Professeur Augustin Moïsi, votre conclusion.
Oui, je voudrais mettre l'accent sur la nécessité d'une compréhension partagée des opérations conjointes déjà entre les militaires et les civils, mais aussi la nécessité de démanteler par les renseignements les sources d'approvisionnement de l'ADF. Je ne doute pas un seul instant qu'il s'approvisionnerait à partir de l'Ouganda qui a pris la RDC. Mais également, il est important, à mon avis, de démanteler le leadership aussi des ADF et pourquoi pas adapter les stratégies de l'opération Soudja à la mutation, à la dispersion de sur la population. Cela, à mon avis, permettrait justement d'anéantir ces groupes et essayer davantage de rassurer la population de l'espace béni, mais aussi de l'Ituri, qui subissent les affres de cet activisme de l'ADF.
Merci. Professeur Richard Kihimba, votre conclusion. Vous avez 30 secondes.
Oui, en fait, en conclusion, il faut dire que la population du territoire de Beni, même celle des territoires voisins, se trouvant dans la province de l'Ituri, souffre énormément. Et nous pensons que la souffrance déjà vécue suffit. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, madame, suffit pour qu'un État-providence puisse prendre des mesures nécessaires. Mais tout ce qui se passe, des tueries des civils, des kidnappings qui datent de longtemps, il y a des familles aujourd'hui qui ont manqué leurs familiers, donc les leurs, depuis des années, et qui estiment encore qu'ils pourront les revoir, mais en vain. Il y a déjà qui meurent atrocement. Et tout cela s'est passé dans un petit coin qu'on appelait Triangle de la Mort. Ça allait de Mbau Kamango et Mbau Eringeti Kainama. Mais aujourd'hui, donc, cela s'est agrandi par Beni Kasindi, Beni Eringeti. Madame, aujourd'hui, c'est au-delà de ça.
Merci.
Je vous ai décrit ici actuellement un rectangle qui va de la ville de Beni à la commune de Mandina, et de la ville de Beni à Eringeti, qui est 60 km sur 30.
Vous donc, l'avez dit, vous l'avez dit, il faut conclure.
Ce sont des endroits localisables. Il y a la possibilité que. Oui, maintenant, ce que nous pouvons demander à l'État, c'est réorganiser l'armée, renforcer l'armée, donner à l'armée ce qu'il faut, mettre des personnes qu'il faut pour commander des troupes sur terrain, sanctionner des commandants qui prouvent leur naïveté et leur faiblesse sur terrain. Et si on fait ce genre de choses, on peut y ajouter d'autres. Nous estimons que on pourra avoir un jour des solutions durables. On ne va pas compter éternellement sur d'autres armées. Les armées des
Merci
autres pays...
Merci Richard Kihimba, on n'a plus beaucoup de temps. Merci, nous sommes obligés de mettre fin à cette émission. Merci beaucoup d'avoir pris part à ce débat. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée dans la production de ce magazine. Dona Madimba, Jonathan Fouanani, Clément Chimanga, Willem Lungiamba. Hervé Evoka, on n'oublie pas Sadiki Aboubakar depuis Beni, au Nord Kivu. Merci aussi à Debs qui était derrière la caméra. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.